Deuxième demi-heure donc de la rencontre avec Julie Gagné, notre chroniqueuse hebdomadaire qui est de retour. Bonjour, après avoir sauté une semaine.
Mm-hmm. Oui, exactement. Je suis allée dans la nature la semaine dernière.
Moi, j'ai sauté moi aussi, mais on n'était pas ensemble.
Alors, Julie, tu vas nous parler cette semaine, je pense que tu es allée à l'œil de poisson.
Oui, je suis allée voir l'exposition L'oreille dans l'œil qui est présentée à l'œil de poisson jusqu'au 1er juin. Mm-hmm. Une exposition extrêmement intéressante. Moi, je suggère à tout le monde de prendre un bon 2 heures pour aller voir ça. Mmh.
Il ne reste pas beaucoup de temps. Là. Ça finit demain, ça.
Ça finit le 1er juin.
Oui, c'est pour ça que j'en parle cette semaine.
T'es en avance, mon Jean-Pierre.
J'avais l'impression qu'on était le 28. Okay. C'est bon. Donc, il reste encore une semaine. Parfait.
Oui. Et donc, c'est une exposition, en fait, où des artistes en art visuel devaient créer une œuvre qui servirait de partition graphique pour des musiciens. Mm-hmm. Donc, dans la lignée un peu de John Cage qui disait que l'acte premier de la performance musicale, c'est écouter et pas de faire de la musique, puis que faire une composition avec des procédés aléatoires peut faire quelque chose de beau. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là où c'est un exercice de style, finalement, tant pour les artistes en art visuel qui devaient créer quelque chose qui servirait à faire de la musique, que pour les musiciens qui, eux, devaient s'inspirer d'une œuvre pour faire de la musique et que ça colle, finalement.
Tu voulais faire un parallèle avec la vidéo?
Oui, bien, en fait, avec le vidéoclip, c'est que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le vidéoclip. Mais je me suis dit, bon, le vidéoclip, on met des images sur une musique, sur des paroles,
c'est
sur
une ambiance. C'est un peu
l'inverse. Bien oui, mais c'est ça, c'est vraiment l'inverse. Puis c'est un exercice de style dans les deux cas, dans la mesure où l'artiste doit vraiment penser à la musique et le musicien doit penser à l'art. Donc, je pense que c'est une démarche qui doit être extrêmement stimulante à réaliser. Vas-y.
Oui, vas-y. Okay. Moi, je te suis.
Ben, dans cette exposition-là, il y a des œuvres vraiment intéressantes. Moi, je vais parler de celles qui m'ont le plus frappée. Premièrement, Soit Oiseau, Horizontes en Movimiento. Mon espagnol est mauvais ce matin, ce midi, en fait.
Je vais te le
donc,
laisser.
Donc, Alfonso Arzapallo sur une musique de la galerie Stratique. Alfonso Arzapallo a pris 5 photographies d'un même point de vue qui correspondent à un balayage d'horizon sur une plage au Mexique.
Sur une plage au Mexique, oui.
Exactement. Donc là, on voit la mer sur une photo. Sur une autre, on voit des huttes et des palmiers. Sur l'autre, c'est des nuages, des oiseaux. Sur une autre, c'est juste la plage. Bon, la plage avec des palmiers. Puis, ce que Arzapallo a fait, c'est qu'il a décortiqué les photos de manière à ce que la galerie Stratique puisse mettre l'accent sur certains éléments du paysage dans le but d'écrire une expérience précise d'un lieu spécifique à travers une composition sonore. Donc, chaque image est découpée en fonction du temps qui va être associé à la contemplation.
Donc, c'est comme une partition, dans le fond.
C'est vraiment une partition.
Oui, c'est vraiment
une partition, mais c'est une partition où il n'y a pas des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais ce sont des images et des...
Les oiseaux, les nuages, etc. Donc, sur la première page, c'est un petit livre, dans le fond, qui nous est présenté en anglais, en français, en espagnol. Mm-hmm. Sur la première image, on a uniquement les 5 photos mises une à côté de l'autre. Sur l'autre, on a un découpage vraiment où là, on va encercler, par exemple, le palmier, on va encercler ici, on va mettre des temps. Et sur la troisième page, finalement, là, c'est vraiment, vraiment décortiqué. On sent que Arzapallo a pensé à toute son affaire. Puis je me dis, est-ce que la galerie Stratique avait vraiment une latitude? Mais c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont fait la galerie Stratique, c'est-à-dire qu'ils ont associé aux images des sons qui sont relatifs aux propriétés physiques des éléments. Donc, on va avoir les palmiers, les nuages, l'eau, mais à ça, on va mettre de l'ondulation, de la réflexion, de la densité, de la texture. Donc, on sent vraiment, c'est une ambiance de bord de plage avec tous les instruments qui sont utilisés.
C'est ce que ça donne comme son, d'ailleurs.
Effectivement. Et donc, c'est une œuvre qui se lit, par contre, de manière très, très linéaire. Tu sais, ça se lit de gauche à droite. Bon, on peut se fier au temps, tout ça. Je dirais même que c'est une expérience esthétique qui est quasiment scientifique. En la mesure où on va essayer d'identifier, OK, bon, tel moment, c'est tel son, tel élément du paysage, c'est un autre son, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment choisir de juste regarder les photos puis de progresser en regardant les photos et en écoutant la musique ou vraiment y aller là, d'une étude plus complexe.
Il y en a d'autres aussi qui sont moins structurés, où les artistes ont eu plus de marge de manœuvre, de liberté.
Oui, bien, notamment l'œuvre de Caroline Latan-Stiefel, Vagabond, sur une musique de Van Stiefel qui s'appelle Vagabond aussi. Elle a fait une partition sculpturale qui est proche du dessin, de l'architecture moléculaire.
On dirait un filet de pêche.
Oui, un gros filet de pêche, une toile d'araignée. Oui, coloré. mais aussi un peu schizophrénique dans la mesure où c'est pas régulier. C'est vraiment, bon, à partir des matériaux, des cure-pipes entremêlés ou simplement des cornes qui vont suspendre la structure qui est vraiment organique, qui est vraiment comme un écosystème qui va rechercher l'équilibre et dans lequel les couleurs sont super importantes. Il y a du jaune, du bleu pâle, du bleu foncé, du noir. Puis dans le fond, on sent aussi que l'artiste pense à la théorie des correspondances. Telle couleur, c'est telle émotion, c'est telle lettre ou c'est telle note.
Comme Arthur Rimbaud a fait.
Oui, comme Rimbaud ou Baudelaire. Je pense que c'est Baudelaire. Je ne suis pas certaine. Tout au moins, des poètes symbolistes du 19e siècle.
Il y a une chanson d'Alexandre Bellegarde qui s'appelle Sacré Rimbaud. Et il reprend ces lettres-là.
Ça se peut, mais je pense que c'était dans l'air du temps aussi. Il y avait beaucoup de réflexions à ce sujet-là.
Ben oui, puis c'est drôle parce que dans la musique russe aussi, il y a un compositeur, je me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire, mais un grand compositeur qui associait les tonalités avec des couleurs comme... ici, il composait une pièce en fa dièse. Le fa, c'était bleu, puis en la, c'était blanc, puis etc. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé des correspondances comme ça. C'est intéressant. Donc, on reprend un peu ça. Là.
Et donc... bon, visuellement, oui, ça a l'air moléculaire, mais c'est vraiment... c'est dense par endroits, cette culture-là. À la limite, c'est emmêlé. Il y a comme des petits cafouillages. D'autres endroits, ça ressemble à des cordes de harpe ou à des cordes de guitare. Puis ce que j'ai trouvé bien avec ça, c'est...
La musique va dans ce sens-là, justement.
Ben oui, la musique nous propose un parcours visuel. Comment regarder-le, finalement, à travers la musique? Puis on se rend compte que peut-être... On ne sait pas exactement quelle trajectoire nous est proposée, mais à partir des sons, on a tendance à regarder tel élément ou tel autre élément. À limite, même, on regarde les cornes qui suspendent la sculpture, puis on se dit, on pourrait produire une note. On pourrait vraiment produire une note avec ça. Puis c'est vraiment joli, tant visuellement que musicalement. C'est vraiment l'aspect des diaphanes, des carrés de tissu, l'aspect emmêlé des cure-pipes. C'est vraiment tout perceptible dans la musique. Puis non, vraiment très joli, très poétique, cette œuvre-là.
Donc, ça prend un peu de temps. Il faut prendre un peu de temps pour regarder et se laisser imbiber par la chose.
Oui. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment écouter les pièces au complet. Parce que si on écoute les pièces au complet, on a l'expérience esthétique au complet. Donc, vraiment, on fait le tour des œuvres.
On va faire justement une petite expérience. On l'écoutera pas au complet, mais il paraît que tu tapais du pied sur cette œuvre-là.
Oui, exactement.
Voici l'œuvre de Jackie Gallant. C'était la pièce de Jackie Gallant, sur laquelle, donc, tu disais que tu tapais du pied.
Oui, je tapais du pied, mais en fait, la pièce s'appelle BPM. C'est assez évocateur, beat par minute. Ça amène à taper du pied.
Il faut dire qu'on en a fait jouer à peu près 2 minutes, mais ça dure 6:35, cette pièce-là. Ouais. C'est beaucoup plus long que ça.
Bien, c'est tout le temps que nous avions.
Mais si on veut donner la parole à Julie. À Julie,
oui, bien sûr.
Et donc, ça, c'est une œuvre qui est associée à l'œuvre de Nelson Henricks qui s'appelle Untitled Scar. Star. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce sont deux écrans qui nous présentent deux images distinctes. Dans l'écran de gauche, l'écran est séparé en 9 carrés qui vont être remplis soit d'images ou de carrés de couleurs, ou etc., qui vont bouger au son d'une harmonie quelconque. Mm-hmm. Et dans l'écran de droite, c'est une seule image, mais qui va bouger, qui va changer au son du rythme finalement. Et l'artiste, lui, s'est approprié les lettres de la notation musicale, donc de A à G, et s'est amusé à faire des jeux de mots. Mm-hmm. Avec ça, donc, mettons, on a egg, on a edge, on a age.
Ouais,
puis bon,
ça.
Toute la suite des mots va être un jeu de mots. Puis à ça, il va avoir associé des images qui soit vont détourner le sens du mot ou encore vont le renforcer. Et au départ, la musique de Jackie Gallant là-dessus, là, j'ai juste le terme anglais pour le dire, mais c'est tête.
Ouais, oui,
c'est
vraiment tête. Ça rentre très
ah,
juste.
Ah oui, ça fit, là. On se dit, mon Dieu, ils ont travaillé côte à côte, là. Ça se peut pas être aussi juste que ça, être aussi précis, une musique vraiment entraînante. Et là, on regarde d'un écran à l'autre parce que d'un côté, on a vraiment l'harmonie, les instruments qui vont défiler sur l'écran au gré des changements de couleur des carrés ou des changements d'image ou de l'apparition des mots. Mm-hmm. Et sur l'autre, c'est vraiment le rythme. Et on tape du pied, pratiquement, en regardant.
Donc, c'est mission accomplie parce que c'est vraiment l'adéquation entre l'image puis le son, la musique. Donc,
ouais.
c'est la rencontre.
Ça marche.
Ça peut pas marcher mieux que ça. Mm. Hein?
Non, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, vraiment, au début, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les notes collent parfaitement aux images. Puis, Jackie Gallant va prendre une distance jusqu'à désintégrer les liens formels. Mais ça se fait vraiment doucement. Ça se fait pas en rupture. Puis, on n'a pas nécessairement l'impression d'une inadéquation entre ce qu'on voit puis ce qu'on écoute, parce que ça continue quand même à coller aux images, mais c'est la musique qui va changer par rapport à ce qu'on va voir. Donc vraiment une œuvre vraiment stimulante.
Il y en a une autre aussi qui a attiré ton attention, c'est celle d'Artist of the Year.
Oui, bien, de base, j'aime Artist of the Year. Je trouve que si on veut se mettre de bonne humeur, on veut se craquer ou tout ça, on écoute ça, puis on n'a pas le choix. On marche vite dans la rue ou on devient super stimulé. Fait que nécessairement, j'ai été portée vers cette œuvre-là. Puis en fait, visuellement, bon, c'est l'œuvre d'Uniform, A Very Special Love Song. Et leur démarche est vraiment intéressante parce qu'ils se sont dit, quoi de plus pop que la caisse de vinyle d'un DJ?
Ah oui, exactement. Puis elle est belle, cette caisse-là, pour ça.
Comment?
Elle est belle, cette caisse.
Oui,
belle
la caisse est belle, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi des albums des années 70, des albums d'amour, tu sais, qui portent des noms comme Hold Me ou Lonely Girl, You Are My Treasure, des trucs comme ça. Puis la typographie, elle est vraiment années 70.
Ouais,
vraiment une typographie qui est kitsch, mais profondément kitsch. Puis ce qu'ils ont fait,
Flower Power,
oui, un peu, mais tu sais, entre le flower power puis le disco, on n'est pas trop ça.
C'est notre époque, ça.
Le petit côté kitsch.
Oui, c'est ça.
Et donc, eux ont choisi ces pochettes-là, ils les ont numérisées, puis ont gardé uniquement le titre avec la typographie originale. Donc, c'est des pochettes blanches avec les titres en rose, puis ils ont organisé une manière à créer des paroles de chansons, mais d'une chanson vraiment mielleuse, vraiment, là... kitsch, funky, tout ça. Donc, tu sais, les paroles, ça donne quelque chose comme « I can't resist you »,« Lonely girl, you are my treasure »,« Color my rainbow ». Il y a même un refrain, c'est « Hold me ».
Qui est répété trois fois.
Puis à ça, on ajoute la musique de Artist of the Year, qui, eux, se sont influencés, qui ont été influencés justement par la typographie rétro, puis qui nous ont sorti une espèce de funk aux accents Motown, hyper entraînant. Donc, avec les pochettes, on tourne les pochettes, on les regarde.
Oui, parce que c'est ça. Pendant qu'Artist of the Year joue, on fait défiler les pochettes.
Exactement.
Qui sont alignées, puis là, tout ça nous rentre dans la tête en même temps.
Oui, tout ça nous rentre dans la tête, mais surtout, on les fait défiler au rythme de la musique d'Artist of the Year. Puis même si dans la chanson, il n'y a pas de parole, il y a juste love qui se répète régulièrement, bien, ça crée les paroles d'une chanson qu'on entendrait dans notre tête ou qu'on aurait envie de chanter, tout simplement. Donc ça, ça laisse un sourire aux lèvres, ça met vraiment de bonne humeur.
Bien, on va l'écouter, Artist of the Year, justement, notre ami Daniel Drolette. Daniel, on y va?
No.
C'est de la musique de party, comme tu dis.
Ouais, un peu plus en dansant. Hein? Ça, puis avec une bouteille de Red Bull, on est bien correct.
Alors, on va changer de place. On va s'en aller au 840 Saint-Joseph-Est.
Oui, j'en avais pas beaucoup parlé dans mes premières interventions. Ouais. Je me suis dit, pauvre 840 Saint-Joseph, je le néglige.
Oh,
on
n'a
parlé
H.
que de 509. Mm-hmm. Et donc, je suis retournée pour vraiment me pencher plus particulièrement sur des œuvres qui m'avaient marqué de prime abord, pour en regarder d'autres aussi que j'avais pas eu le temps de regarder, bon, dans le vernissage ou tout ça. Et là, je suis allée dans la petite pièce de Carl Bouchard et Martin Dufresne. Mm-hmm. J'allais voir leur œuvre qui s'appelle Point de rupture.
Mm-hmm.
Et ce duo-là, moi, je les trouve drôle.
Ah, bah oui, ils sont ouais, drôles, puis ils ont leur côté kitsch aussi.
Oui, vraiment.
Ouais,
un côté kitsch fort, puis en même temps, on sait pas tout le temps comment sentir en regardant ça ou comment l'interpréter.
Ça dérange. Ça dérange toujours.
Ça dérange, mais c'est surtout déroutant.
Mm. Ben, là, c'est des amalgames, c'est ça, perturbants. Hein?
Vraiment.
Quoi penser de tout ça?
Vraiment, leur dernière exposition à l'œil de Stalin de Poisson, je crois, justement.
Oui, Colonial élégant.
Oui, Colonial élégant.
Colonial élégant.
Mais avec un nom comme ça, moi, je me rappelle, c'était pour ça que j'étais allée visiter cette exposition-là. Donc, quand j'ai vu qu'il était à la Manif d'art, j'ai fait OK, là, j'allais voir ça.
Alors, qu'est-ce qu'il nous présente?
Dans ce cas-ci, bon, le duo se met encore en scène pour explorer les questions d'identité et d'altérité dans des jeux de rôle théâtraux. Donc, ils vont aborder le thème de l'écart, de la distance, qui va permettre de réfléchir, de devenir, de rêver ou d'inventer l'autre, finalement. Et c'est une petite salle intime qui n'est pas sans rappeler les salles de jeu illégales. Je ne sais pas, moi, je pensais à années 30-40, les bonhommes qui jouent au poker avec leurs cigares, des gros paris illégaux et tout ça.
Il fait sombre.
Il fait sombre au centre de la petite pièce. Il y a un jeu de Ouija, un gros jeu de Ouija en verre. Donc, une espèce de notion de spiritualité kitsch encore là. Une espèce de communication aussi dans la mesure où, bon, c'est tout souvent, bon, c'est deux ou plusieurs personnes qui vont avoir les doigts sur le... Je ne sais pas qu'on appelle ça, là, le petit truc qui va se déplacer. Là.
Mm-hmm. Le tapis, là,
je ouais, non, mais c'est l'espèce de chose qui est supposée se déplacer. Là, mais finalement, il y a tout le temps...
La poque.
Ouais, la poque.
le morceau.
Finalement, il y a tout le temps quelqu'un pour le faire bouger, faire la blague, tout ça. Donc, ça ne fonctionne jamais vraiment. Il y a une photo où les deux sont en train de jouer aux échecs. Bon, il y en a un qui est concentré, il s'apprête à faire son mouvement, puis tu as l'autre qui est assis, on ne voit pas sa tête. Il fume une cigarette, il est en bobette.
Ouais.
Il a l'air vraiment là, ailleurs, à regarder ailleurs puis à s'en foutre un peu. Mais c'est intéressant parce que le jeu d'échecs va amener une communication qui va être basée sur la patience
et
sur le silence. Donc, c'est une scène qui est intime, un jeu d'échecs. Là, on n'est pas là pour paraître absolument pas. C'est de voir les gens réfléchir, tout ça. Une autre œuvre que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'œuvre où il y a un type qui essaie... Il y en a un des deux, en fait, qui est en train de faire un cube Rubik.
Oui.
De miroir avec un médecin qui le regarde un peu dérouté derrière ce qui semble être un miroir sans teint.
Oui. Donc, ça va dans le style de Bouchard et Dufresne.
Ouais.
On est toujours... On se demande un peu qu'est-ce qui se passe là. C'est toujours... comme tu dis, c'est déroutant.
Oui, c'est déroutant. C'est des scènes incongrues.
Oui.
Qui nous laisse vraiment perplexes, finalement. Il faut les regarder, puis se questionner, puis toujours se rappeler un peu c'est quoi leur volonté dans tout ça. Donc, très intéressant.
Il y avait quelque chose d'autre aussi qui est un peu, je dirais pas un pastiche, mais du déjeuner sur l'herbe, mais qui est une façon de revisiter cette œuvre-là de façon assez particulière.
Oui, c'est The Exquisite Folly of the Event and its Participants de Dimitri Martinovitch, un artiste ex-Yougoslave qui habite maintenant à Toronto. Lui nous propose des scènes érotiques et champêtres qui évoquent justement le déjeuner sur l'herbe, mais à la mesure du scandale qu'il y a eu au 19e siècle, c'est-à-dire une bande d'hommes assis, bien habillés, avec une femme nue qui se prélasse en milieu. Est-ce que c'est une pute? Est-ce que c'est un modèle? Qui est-ce? T'sais, ça avait vraiment choqué, mais lui nous propose des images ultra actuelles qui vont aussi nous choquer. Donc, il va nous proposer deux séries de photos. La première met en vedette, disons, un couple hétérosexuel, et dans la deuxième série, c'est un couple homosexuel. Mais il y a vraiment des jeux de rôle, des jeux de pouvoir dans des positions sexuelles ultra explicites, mais avec des armes à feu.
Il y a toujours une arme à feu dans toutes les... Et jamais... ils se regardent pas.
Non.
Puis c'est... ils portent un arme à feu et pendant qu'ils font un geste quelconque, l'autre tire un peu partout. Mmh.
Ouais, ou la femme, par exemple, va être assise à califourchon sur le gars. Elles sont nues, sont tous nues tout le temps. Et donc, va servir du vin à boire, mais la coupe de vin est près de son pubis, finalement. Donc, là, c'est des espèces de...
C'est
ça, c'est choquant. Ouais. En même temps, on a une distance à regarder ça parce qu'il y a un côté kitsch. C'est très, très figé comme photo.
Le décor dans lequel, le cadrage de tout ça aussi est très oriental.
Oui. Tu parlais de Kamasutra tantôt.
Il y a une petite ambiance Kamasutra derrière ça.
Oui, il y a une ambiance Kamasutra dans une œuvre qui réfère au déjeuner sur l'herbe. Puis dans la série où c'est un gars puis une fille, ils font vraiment Bonnie and Clyde. Donc, vraiment un mélange des genres tout à fait particulier. La série, justement, avec deux hommes aussi, peut être assez choquante. On n'est pas nécessairement habitué de voir des images comme ça. Tu sais, pendant qu'il y a un homme qui sodomise l'autre tire de l'arme à feu. Ça laisse dans un drôle d'état, mais c'est quand même très, très plaisant à regarder. Là.
La sodomie extrême.
et ton dernier coup de cœur, parce qu'il nous reste quelques minutes.
Oui, c'est The Flying Tape de Sylvina Skampiras.
C'était aussi le coup de cœur en passant de Lisanne Nadeau.
Oui,
Lisanne Nadeau, quand elle a vu cette œuvre-là, elle dit ça, il faut amener ça à Québec.
Ah, mais c'est...
Pourtant, c'est si simple. Hein?
C'est si simple, mais je me rappelle, pas la dernière manif d'art, mais l'autre d'avant, je crois qu'il y avait des petits sacs transparents qui étaient suspendus au plafond. C'était très, très poétique, mais moi, ça m'a rappelé ça un peu, dans la mesure où c'est simple, mais c'est tellement beau. Ça nous met tellement dans une autre ambiance. Dans ce cas-là, ce sont des ventilateurs quand même assez puissants.
Il y en a beaucoup. Il y en a combien?
Il y en a neuf
ventilateurs. Donc, ils vont souffler sur une bande magnétique qui va tout simplement virevolter dans le vent, faire des mouvements ondulatoires, aléatoires. Puis, dépendamment de comment on se déplace dans cette pièce-là, on va faire changer
exactement,
le
parce
mouvement.
Que je suis allé hier, puis effectivement, plus tu te déplaces dans la pièce, plus évidemment le jeu d'air change, parce que les éventails sont en plein centre de la pièce. Et placé en cercle. Donc, si toi, tu vas te placer, tu viens couper l'air.
T'interfères
dans l'air et la bobine et la bande magnétique change de direction.
Elle va changer de direction.
Je pense que t'as même attaqué, toi. sauvagement attaqué.
Elle était pris dans mon manteau. J'étais plus capable de m'en défaire.
Mais c'est vraiment intéressant parce que, justement, quand on se déplace, la bande magnétique va venir se coller sur nous. Puis on va participer à cette chorégraphie aléatoire-là sur laquelle, finalement, on n'a pas vraiment d'impact à part, les positions qu'on va prendre dans l'espace, tout ça, c'est... Moi, quand je suis allée le premier soir, il y avait beaucoup de gens, puis elle volait pas. Elle était par terre, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a remonté dans les arbres, puis là, ça s'est mis à bouger, mais je pense que l'expérience en groupe est le fun.
Donc
mais seul, c'est vraiment... plus...
C'est mieux, non?
Oui, c'est quasiment spirituel.
J'ai beaucoup aimé ça hier, être tout seul avec cette œuvre-là.
Tu fais partie du spectacle.
Oui, puis t'en fais partie, puis tu sais que tu peux avoir un rapport avec elle, parce que plus tu te déplaces, elle change son parcours à ce moment-là.
Exactement, on peut passer en dessous ou par-dessus. Je me suis presque senti comme quand je jouais à corde à danser. On peut jouer à léviter ou à aller vers la bande ou à se rapprocher des ventilateurs. Puis visuellement aussi, c'est vraiment superbe, les mouvements que ça crée, la bande magnétique qui tournoie sur elle-même, tu sais, c'est quand même luisant. On va tout capter les reflets de la lumière dans ça. C'est vraiment, là, j'ai adoré ça.
Bien, c'était un beau coup de cœur.
Oui, vraiment.
Bien, merci, Julie. On va se revoir la semaine prochaine.
Bien sûr.